Et je te demande de mettre ta main sur le reste de cette réunion, Seigneur, que ta parole puisse faire son œuvre, ou si on a notre cœur ouvert et notre esprit ouvert à recevoir de toi ce que tu as à nous communiquer. Nous voulons grandir dans la foi, nous voulons nous nourrir de ta parole, Seigneur. Nous voulons bâtir notre vie sur ta parole. Merci de ce que tu vas faire encore ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia. Pendant qu'on est en train de chanter le dernier chant, il y a un des couplets, le dernier couplet, ça dit « Quand je vois tes œuvres, ben mon cœur, il crie de joie. » En même temps, je suis en train de penser à quelque chose que j'ai été témoin cette semaine dans un petit film, de voir la puissance de Dieu à l'œuvre, de voir la main de Dieu agir à travers des hommes et des femmes sérieux, des personnes qui veulent travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Puis en passant, c'est un ministère qu'on devrait prier encore plus et soutenir encore plus. Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose que il n'y a pas grande organisation chrétienne qui sont en train de faire présentement. La même chose que ce qu'eux autres font. Il y en a peut-être qui ont déjà des étiquettes de données dans leur pensée sur les Gédéons. Mais laissez-moi vous dire que cette semaine, j'ai vu un petit film. Savez-vous combien de Bibles qui se distribuent présentement à chaque mois? Puis on le sait que la parole de Dieu, c'est elle qui va transformer des vies parce que c'est une puissance, la parole de Dieu. Quand quelqu'un tombe avec la Bible dans ses mains, le Nouveau Testament, puis les paroles de Jésus pénètrent, ça pénètre dans son âme, dans son esprit, ça pénètre jusque dans son corps, puis ça change les personnes. Les personnes qui pouvaient être bien dures, ils peuvent pas résister, la parole pénètre, puis elle transforme des vies. Il y a des gens comme l'apôtre Paul, qui est une personne dure contre la parole. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est en contact avec la parole révélée de Dieu, de Jésus? Il a pas tenu de bout. Mais quand la parole de Dieu est annoncée à travers son message qui est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est une puissance qui change des vies. Avez-vous une idée combien est-ce qu'il y a de Bibles qui peuvent être passées par mois? Par mois. Bibles par mois. Savez-vous qu'ils ont accompli, ils ont même dépassé le cap de 1 milliard de Bibles distribuées depuis que l'organisation est en marche. Ça fait à peu près 100 ans. Ils ont au-dessus de 1 milliard de Nouveaux Testaments et de Bibles complètes de distribuées dans le monde entier. Des fois, on dit, « Ah, les Gédéons! » Mais les Gédéons, ils font une œuvre qu'il n'y a pas grand monde sur la terre, pas grandes organisations qui font, je dirais même être à leur cheville à ce niveau-là, pour répandre la parole de Dieu. On devrait prier pour ces ministères-là. On devrait les soutenir, puis de prier que le Seigneur ouvre des portes, puis que les Bibles soient acceptées encore, parce que ça va tout être distribué dans les hôpitaux, dans les motels, puis tout ça, mais avec le temps, les Bibles, il y en a qui ont disparu, parce que les gens qui passent, puis ils ramassent, puis ils gardent. On ne leur reprochera pas, puis on va dire, Seigneur, bénis-les pour cela. Puis ils parlent à leur cœur, mais il y en a d'autres qui doivent être distribués. Puis je pense que ça va à peine de soutenir ce ministère-là. Aïe, oui. C'est la même chose chacun de nous quand on se promène, on va dans un motel, dans un hôtel, dans des endroits pour se loger. On peut le demander, Est-ce qu'ils ont des bibles? Est-ce qu'ils seraient intéressés d'en avoir gratuitement? Puis s'ils sont intéressés, vous avez juste à contacter Julien, puis il va aller voir, puis il va voir où il va envoyer quelqu'un dans cette région-là, puis ils vont en recevoir des bibles. Moi, je crois que la parole de Dieu, quand elle se répand, c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir pour que le message avance. Il dit, quand je vois tes œuvres, mon cœur est rempli ou il crie de joie. Ben ça, c'est un œuvre de Dieu de voir comment sa parole est répandue un peu partout. Puis il faut se réjouir de ça. Merci Seigneur. On a vu la semaine passée, ben, il y a deux semaines, que l'œuvre de Dieu au niveau de l'évangélisation, qui faisait prendre garde il fallait prendre garde de travailler dans son œuvre sans être en contact ou en communion avec lui, parce qu'on peut faire des œuvres dans la chair, puis je vais vous dire, ça ne sert pas à grand-chose, sauf qu'on peut faire toujours confiance au Seigneur quand tout temps qu'on peut répandre la parole quand même, mais quand on est rempli, on a plus d'efficacité, on a plus d'onction, la main de Dieu peut agir à travers de nous pour parler au cœur des gens, pour révéler leur cœur, on peut voir des signes et des prodiges se manifester en tout temps. Il faut continuer à s'accrocher à Dieu, s'attendre à ce qu'il continue son œuvre à travers de nous, puis on va voir sa main. Souvent dans l'Assemblée, on entend des témoignages qu'on voudrait voir la main de Dieu agir davantage dans l'Assemblée, mais il n'y a pas 50 recettes, il n'y en a juste une. Il faut aller chercher à tous les jours, dans sa présence, il faut aller chercher son onction. Quand on marche avec son esprit, on transporte son onction. Quand on vient à l'Église par la suite, nous pouvons parler, prier, bénir les autres par l'onction qui va découler à travers de nos vies. Ou on va aller dans le monde, on va aller parler de sa parole, puis l'onction va passer, puis elle va toucher leur cœur. Il faut s'accrocher à ce que Jésus peut faire. Il faut s'accrocher, y croire, puis y dire « Seigneur, fallait ». Ce soir, on est rendu à la partie numéro 17. On va voir comment évangéliser votre conjoint. Ici, ça parle en majoritairement quand que un des deux conjoints n'est pas sauvé. Quelles sont les meilleures approches qu'on peut avoir pour arriver à toucher cette personne-là? Souvent, on va dire, moi, j'y parle du Seigneur à tous les jours. Oui, c'est vrai que parler du Seigneur, ça compte, puis il faut le faire. Il faut continuer à toutes les occasions, d'une manière doucement, de semer le message, de parler de Dieu, de parler de sa parole, de parler de ses promesses. Mais il n'y a pas juste ça qui va aider à pouvoir sauver cette personne-là, advenant le cas qu'elle est endurcie. Premièrement, il faut toujours obéir au Seigneur. En premier lieu, rester en étroite relation avec le Seigneur. Ça revient au point de la semaine passée, parce que je pense qu'il n'y a même pas une fois qu'on ne peut pas mentionner ce point-là, de dire qu'il faut rester en relation avec le Seigneur. T'es dans la maison, si t'es tout seul dans la chair pour faire les œuvres de Dieu, pas grande efficacité. Si t'es rempli du Saint-Esprit, t'es rendu deux pour faire l'œuvre. Toi et le Saint-Esprit. Puis il faut croire que Dieu agit. On va voir des passages qui vont être très intéressants. Il faut croire à l'état de sainteté communiqué par le croyant. Ça, c'est la première des bases qu'il faut bâtir notre foi là-dessus. 1 Corinthiens 7, 12 à 14, ça dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, et qu'il ne la répudie point, et si une femme a un non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient purs. Tandis que maintenant, autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Le point que je vais amener ce soir, c'est sûr qu'il y en a qui ont été un petit peu plus loin que qu'est-ce que ce verset-là veut dire. Par contre, il faut pas l'amoindrir puis dire qu'il n'y a pas rien qui se passe. Quand on nous parlons dans ce passage-là que celui qui est croyant sanctifie les autres qui sont dans son foyer, ça fait penser un peu quand Moïse était sur la montagne. Il y avait un buisson qui était en flamme, puis le buisson se consumait point, puis c'était Dieu qui se manifestait à Moïse. Puis là, il dit, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. Pourquoi que la terre où ce que Moïse était à ce moment-là était devenue sainte? Parce que Dieu était là. Quand on est face dans la présence du Dieu saint, ça ne peut pas faire autrement que sanctifier tout ce qui est autour. Puis la terre est devenue sainte, puis Moïse devait enlever ses sandales afin de marcher dans le lieu saint sans voir rien qui l'empêche d'être en contact avec ce Dieu saint-là. Je dis pas que là, il n'aurait pas été en contact, sauf qu'il y avait un exemple que Dieu voulait nous démontrer, que par sa présence, les choses deviennent sanctifiées. Il y avait d'autres exemples aussi à propos des objets qui rentraient dans la présence de Dieu, dans le tabernacle de Dieu. Ça a rendu des objets sanctifiés. Pourquoi? Parce qu'ils rentraient dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, puis ça servait seulement qu'aux choses de Dieu. Tu ne pouvais pas t'en servir et faire autre chose. Puis il n'y a pas personne d'impur qui avait le droit de toucher à ces objets-là. Mais ce que ça veut dire être déclaré saint, que ce soit la terre qui est déclarée saine, ou que ce soit le non-croyant ou les enfants qui sont déclarés saints, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont sauvés. Devenir saint, ça veut dire dédié à Dieu ou consacré à Dieu. Quand nous autres, on est rendus des saints, c'est qu'on appartient à Dieu, on était dédié à Dieu, on est consacré à Dieu, on s'est donné à Dieu, on est devenu des saints. On appartient à Dieu. Puis à ce moment-là, quand un croyant dans sa maison, il marche en contact avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est en lui, l'Esprit de Dieu est dans sa maison, et tout ce qui est là appartient à Dieu. Tout ce qui est là est consacré à Dieu. Et par son influence, le Saint-Esprit peut changer les choses. Faut pas me répéter, mais je vous le dis pareil, c'est pas que ces gens-là sont devenus sauvés, mais ces gens-là sont entrés en contact avec le Dieu Saint par l'entremise de la personne qui appartient au Seigneur. Et automatiquement, par la suite, quand Dieu est là, il y a des choses qui se produisent. Parce que où ce que là est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et aussi, il y a des guérisons, il y a des délivrances, la bénédiction coule quand Dieu est présent. Et le non-croyant va être touché par ces bénédictions-là. Si on parle dans l'Ancien Testament d'autres exemples, quand l'arche de l'Alliance qui appartient, où ce que Dieu descendait pour se manifester à Israël, à un moment donné, parce qu'il est arrivé que des guerres et ainsi de suite, l'Arche de l'Alliance a été emmenée dans un autre pays. Elle s'est retrouvée dans la maison d'une autre personne. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là qui avait l'Arche de l'Alliance dans la maison ou dans... Il était béni. La bénédiction de Dieu tombait sur son foyer. Il devenait prospère. Puis, quand Dieu est présent, il se passe quelque chose. C'est la même chose pour chacun de nous. Nous devons croire à l'état de sainteté que nous sommes rendus en Jésus-Christ. On est devenu spécial. On n'est plus comme le reste du monde. C'est pour ça que la Bible, à d'autres endroits, nous dit qu'il faut se séparer du reste du monde. Il ne faut pas imiter le reste du monde parce qu'on n'est pas du monde. On est une nouvelle création. On a l'Esprit de Dieu en nous autres, puis quand on marche dans ce monde, nous sommes la lumière de ce monde, puis nous sommes là pour apporter les vérités à ce monde. On est là pour amener l'influence de Dieu dans ce monde. Quand on rencontre les personnes, puis on leur parle de la parole de Dieu, mais il faut croire que à cause de qu'est-ce qu'on est, ambassadeur de Dieu, héros de Dieu, on parle de la parole de Dieu, puis toujours dans l'esprit de sainteté, si on embarque à vivre comme eux autres sont, puis on commence à parler avec les mêmes niaiseries qu'eux autres disent, les impuretés, puis les corruptions qu'ils peuvent avoir, on ternit cet effet-là, puis même on peut même la rendre qu'elle n'a aucun effet sur les gens. Mais si nous voulons voir un changement, il faut s'exhorter à rechercher cette sainteté, en voulant dire, à rechercher davantage consacrer puis appartenir juste au Seigneur, vivre juste pour les choses du Seigneur, penser juste aux choses du Seigneur, parler juste des choses du Seigneur. Je dis pas qu'il faut pas parler d'autres choses, mais plus que tu vas te maintenir dans la présence du Seigneur, plus que l'état de sainteté que tu es devenu dans cette présence va être agissant, va avoir un effet sur les gens. Tu vas venir, tu vas pouvoir parler à quelqu'un, puis l'Esprit de Dieu va agir. Tu vas prier pour quelqu'un, Dieu va répondre parce qu'il est attentif à tes prières. les yeux sur les justes, puis ses oreilles sont attentives aux prières. Fait que si on parle d'un non-croyant qui habite avec une croyante, faut pas que la croyante ou le croyant décide d'abandonner son conjoint parce qu'il veut pas suivre le Seigneur. Le Seigneur, il voyait la situation, il savait que c'était pour être comme ça pour un bout. Ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Mais le Seigneur veut manifester sa gloire à travers cette personne-là, et par qu'est-ce qu'elle va dégager de la présence de Dieu, Dieu peut faire un œuvre. Il dit que sais-tu femme si tu ne sauveras pas ton mari, ou que sais-tu mari si tu ne sauveras pas ta femme, par l'effet de sanctification que tu as reçu en Jésus. Es-tu un amen à cela? Et moi, je pense qu'il faut croire à cet état de sanctification. Si vous oubliez ça, vous êtes en train de perdre la saveur que vous êtes supposé de donner. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, si nous restons dans la présence de Dieu, puis nous croyons que quand on est dans la présence de Dieu, l'effet du Dieu Saint va agir à travers de nous pour toucher les gens, on va avoir vraiment de la saveur. Les gens vont faire, ils vont être touchés. Ils vont nous regarder, ils vont dire, je sais pas, là, à l'œil, là, je regarde cette personne-là, mais toi, t'as quelque chose que j'ai pas. Ça se voit à l'œil, même s'ils savent pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y en a qui sont déjà fait dire ça? Moi, je me suis déjà fait dire ça. Parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose. Ils savent pas c'est quoi. Puis c'est quoi-là? Mais c'est la présence de Dieu qui rayonne dans ta vie. T'es une lumière. T'as du goût. Mais si nous voulons travailler pour sauver notre conjoint qui est inconverti, il faut rechercher d'être dans cet état de sainteté, consacré au Seigneur, puis là, de s'attendre à ce que l'Esprit de Dieu puisse faire quelque chose. Tout en continuant à prier pour notre conjoint. Parce que, comme la parole de Dieu nous l'enseignait dans d'autres passages qu'on a vus, mais dans celui-là, on l'a vu assez souvent, parce qu'il tu peux pas avoir deux idées là-dessus, c'est 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui ont élevé en dignité. Bon, ainsi de suite. 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Là, si je vous pose la question ce soir, est-ce que Dieu veut sauver votre conjoint? Oui. C'est écrit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut sauver votre conjoint. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous voulez que votre conjoint soit sauvé? Parce que ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont tellement frustrés de cette situation qui aimerait mieux que son conjoint s'en aille, ils veulent même plus rien savoir de leur conjoint, à cause qu'ils ont enduré des choses, puis qu'ils ont souffert des choses. Ils veulent même plus que leur conjoint reste à côté d'eux autres. Ils sont désespérés qu'un jour, ils pensent même plus qu'un jour, Dieu va le sauver. Ils croient même plus que Dieu veut sauver cette personne-là. Puis on vient décourager. On est même pas intéressé. On veut même plus qu'elle soit sauvée. On est quasiment en train de prier que Dieu y envoie des malédictions dessus, puis que Dieu le châtie, puis que Dieu le punisse. J'ai déjà entendu des gens parler comme ça. Je dis pas que c'est ici, mais ça a déjà arrivé. À cause de l'amertume dans leur cœur, ils ont perdu toute espérance, puis au lieu de désirer que leur conjoint soit sauvé, si je crois que Dieu, il me sanctifie, que sa présence peut changer des choses. Et si je crois que Dieu veut que je prie pour mon conjoint parce que je sais que Dieu veut sauver mon conjoint. Et si je dis, je veux qu'il soit sauvé, et je commence à prier pour lui parce que Dieu veut et moi aussi je veux, vous mettez toutes les chances sur votre bord. Gloire au Seigneur. Par la suite, continuez à donner toujours une parole de grâce. On va s'expliquer. Colossiens 4:6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Là, on parle au niveau du conjoint. Oh, je t'avais dit de pas faire ça, ça a pas de bon sens, puis là, t'étais là, puis là, tu reçois la malédiction de Dieu sur toi, là, puis si t'aurais pas fait ça, ou bien si tu deviendrais... Toutes là, des genres de situations qu'on voit souvent. Là, je parle pas nécessairement entre les couples chrétiens, là, je parle juste entre les couples non-chrétiens. Un chrétien, puis l'autre non-chrétien. C'est pas en tapant sur la tête des gens qu'on va réussir à changer quelque chose. Notre parole, là, en tout temps, c'est vrai que des fois, on est humain, charnel, puis des fois, même, on est surmonté ou est brûlé ou fatigué ou d'un stress immense, puis qu'on perd le contrôle de nos paroles, puis qu'on s'échappe. Ça peut arriver. Mais si c'était à la semaine longue, au mois long et à l'année longue, nos chances d'amener cette personne au Seigneur est mince. Daniel a prêché à la fête des mères sur comment est-ce qu'un couple devrait être, comment est-ce que la femme devrait être, comment même envers nos enfants, ça a une influence. Notre manière d'être a une influence sur les autres. L'influence du Seigneur dans notre vie a une influence sur les autres. Je dis pas que faut devenir parfait. Oui, il faut devenir parfait, je le dis. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il faut rechercher à être comme Dieu, à être comme Jésus, à être à sa stature. Mais, je sais qu'on n'est peut-être pas tous rendus là. Mais il faut aspirer à arriver d'être capable de se contrôler et de dire des bonnes paroles, des paroles de grâce, des paroles assaisonnées de sel qui vont donner du goût dans ce qu'on dit. Ils vont dire, hey, c'est bon ce que tu es en train de dire. Ça fait du bien même, ça m'encourage, ça m'attire. Savez-vous ça qu'un bloc de sel, là, tu mets ça dans le champ où il y a un carré de vache? Ils sont attirés à aller licher ça, puis ils n'ont besoin. Pas rien que les vaches, là, dans bien des espèces animales, sont attirés par le sel, comme il y en a d'autres par le sucre. Mais le sel, ça donne de la saveur, puis ça l'attire. Si ta parole est assaisonnée de sel, elle va attirer les gens. Tes paroles, ça va être des paroles qui vont être une grâce, une bénédiction dans leur oreille. Ça ne sera pas quelque chose qui va les écraser ou les démolir ou ça va être de quoi qui va. Hey, là, tu viens de me faire du bien. Tu viens de me dire de quoi, là, mais là, ça fait du bien que tu viens de me dire. Ça m'a fortifié, puis ça me donne le goût d'être comme toi. Faut apprendre. Ça serait comme le but à atteindre, un des buts à atteindre dans la vie chrétienne, à être comme ça. Puis si on vit dans cette situation-là, dans cette façon de vivre-là, avec des paroles comme ça, on augmente nos chances encore. Parce que je sais que par nos paroles, on peut être une occasion de chute, puis par nos paroles, on peut être une occasion de les attirer. Y en a-tu qui croient à ça, que tu peux être chrétien, et tu peux être une occasion de chute ou de scandale pour les autres? Jésus en a parlé, puis il dit même malheur à celui qui scandaliserait un de ses plus petits qui croise en moi. À quelque part, il faut faire attention à ce qu'on dit. Là, je le dis pas juste pour le couple, mais je le dis pour toutes les occasions. Même entre chrétiens, entre nous autres, faut faire attention à ce qu'on dit. Faut toujours parler de façon à ce que ça amène une bénédiction, que ça amène une grâce, que la personne ait le goût encore de suivre Jésus, puis elle ait le goût encore d'avancer. Puis toujours en continuant, il faut continuer à s'appuyer sur les promesses du Seigneur. Tu peux être en pleine relation avec le Seigneur, ton influence est là, tu vas avoir des paroles qui sont bénissantes pour ton mari, tu vas prier pour lui par la foi parce que tu sais que Dieu veut le sauver puis que toi, tu veux aussi qu'il soit sauvé, que tu vas y parler de façon à l'attirer à ce qu'elle soit sauvée. Mais si ça prend un petit peu de temps avant que ça arrive, continue à t'accrocher au Seigneur puis à des promesses du Seigneur. Dans Actes 2, 39, ça nous dit... Il nous parle, j'ai pas lu le verset avant, mais ça nous dit, repentez-vous. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. car, là on est rendu là, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Ça parle à une famille, là. C'est une promesse que la fusion du Saint-Esprit peut venir pour vous et pour vos enfants. C'est une promesse qu'on peut s'appuyer puis s'attendre. Seigneur, t'as promis que ma promesse de ton esprit pouvait être pour nous. Ça, c'est le couple et nos enfants. Est-ce que ça arrive des fois que vous présentez des prières au Seigneur en vous appuyant sur des versets? Puis il faut le croire. Parce que c'est comme ça que tu dis, je bâtis sur la parole, je bâtis ma vie sur la parole. On s'assied sur une promesse, là, puis on reste dessus jusqu'à temps qu'on n'ait pas vu l'accomplissement. C'est une manière imagée. Tu gardes cette promesse-là dans ton cœur, puis toutes tes prières, quand tu es fait en gardant cette promesse-là, puis tu répètes ces promesses-là, puis tu les réclames. Comme la veuve qu'on a vue qu'elle allait voir le juge inique, il voulait pas y donner, puis elle continuait à l'achaler, puis à l'achaler, puis elle savait qu'elle pouvait finir par l'avoir, puis elle a persévéré jusqu'à temps qu'elle ait eu. Je dis pas que Dieu est un Dieu inique, mais Dieu nous a enseigné dans cette parole d'imiter cette femme-là, et Dieu fera promptement justice à celui qui présente ces requêtes-là. On peut s'appuyer sur sa parole, sur ses versets, et l'attendre. Ça me fait penser encore à l'image d'un enfant qui va avoir quelque chose de son père, puis il demande, « Papa, j'aurais besoin de telle affaire. » Puis là, son père est en train de travailler, puis il est occupé, puis il répond même pas. Puis là, il rachale, il dit, « Papa, j'aurais besoin de ça. » Puis l'autre est encore occupé, bien il tire, puis il reste là. Puis là, le père, il s'en va dans une autre pièce, continue à travailler. L'autre le suit, puis il le demande encore. Là, il s'en va à une autre place, mais à un moment donné, quand ça fait une demi-heure, une heure que ton enfant est après toi, puis il te demande, 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 puis il te demande. À un moment donné, tu te dis, on vient comme le juge. C'est pas parce que j'ai à cœur de l'exaucer, mais parce qu'il est fatigant, je vais y donner. Mais Dieu est pas de même, mais Dieu veut qu'on ait la même attitude de demander, de demander, de demander, de demander. Jusqu'à quand que je vais demander? Jusqu'à temps que tu aies reçu. Faut pas que tu te relâches. Parce que quelque part, si cet enfant-là, ça fait une demi-heure qu'il la demande, son père était juste sur le bord du dîner, mais l'enfant, il dit, oh, ben, moi, je vais m'en aller seul, puis il se revient d'abord, puis il l'attend plus. Son père, il avait la main dans les poches pour lui donner. Mais là, il revient d'abord, puis il s'en va, puis il donne pas. Il n'est plus là pour le recevoir. Il est parti, il a abandonné sa confiance. La Bible, elle nous dit, « Mon juste vivra par la foi. » Puis tous les exaucements de prière, d'ici, tu les demandes, il faut que tu les demandes avec foi, sans douter. Il faut que tu crois ce que tu dis, ça l'arrive. Puis tu vas le voir s'accomplir. Mais persévère dans cette foi-là, jusqu'à temps que tu vois les choses arriver. Le Seigneur veut qu'on apprenne à y faire confiance, qu'on s'en remette à lui. Pas juste pour ça, mais dans toute notre vie chrétienne. Est-ce que ça parle à vos cœurs? Est-ce que c'est une parole qui de grâce? Je vais arrêter là. On va être sage ce soir? Oui, il va y avoir une période de témoignage, mais tout à l'heure, mais qu'on a dans la prière. Pour ceux qui ont un conjoint, commencez, si vous ne l'avez pas commencé, commencez à prier pour cette personne-là. Présentez-la au Seigneur quand on est dans les réunions, présentez-la au Seigneur quand vous êtes chez vous, présentez-la au Seigneur en tout temps. Ou si on a des enfants qui sont inconvertis, il faut les présenter au Seigneur, présenter au Seigneur, présenter au Seigneur. Si on a des grands-parents, nos parents ou des grands-parents, si on a des cousins, des cousines, des mononcles, des matantes, on a le droit à les réclamer. On les réclame pour le salut, puis on peut s'appuyer. Il y a cette promesse-là, mais il y a plein d'autres promesses qu'on peut s'appuyer. On peut s'attendre de recevoir. Moi, je le crois que le Seigneur est en train de nous préparer à ce qu'on reçoive. Et ceux qui ont la foi...